Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'actualité locale de Syllab et vous avez tellement raison. Dernier jour pour profiter de notre concours dans le cadre du festival Waterproof. Vous pouvez jouer encore ce week-end pour tenter de remporter 2 places pour le spectacle Rupture de Mercedes Daisy ou alors 2 places pour la Let's Dance Waterproof à l'UBU. Pour cela, vous aurez besoin d'un mot de passe qui est triangle comme la cité de la danse rennaise. Pas rond, pas carré, triangle. Voilà, ça se passe sur c-lab.fr. Tout de suite, le flash d'Angeline. Pendant sa campagne électorale, le président américain Donald Trump avait assuré qu'il était en capacité de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Parole qu'il sera en incapacité de tenir puisque son envoyé spécial Kate Kellogg a demandé 100 jours pour régler la crise afin que la solution soit solide et durable. L'objectif est que la guerre et le carnage se terminent. Le nouveau chef de la diplomatie, Marco Rubio, a déclaré mardi aux chaînes de télévision NBC et CBS que la politique officielle des États-Unis sera que la guerre doit prendre fin. Donald Trump menace d'imposer des sanctions à son homologue Vladimir Poutine si celui-ci refuse de négocier la fin du conflit en Ukraine. Aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme a pris fin à une décision, condamnant la France, marquant ainsi un tournant dans la lutte pour les droits des femmes.
En cas de divorce, une femme qui refuse des rapports sexuels à son mari ne doit pas être considérée par la justice comme fautive. C'est ce qu'a tranché la Cour européenne des droits de l'homme aujourd'hui. Ça pourrait nous paraître évident, mais pourtant, pour la France, c'est une idée compliquée à concevoir. En 2019, une femme de 69 ans a été condamnée par la cour d'appel de Versailles pour faute exclusive lors de son divorce. La raison, elle avait refusé toute relation sexuelle avec son mari depuis 2008. Après le refus de son dossier en cour de cassation, la requérante a décidé d'invoquer l'article 8 de la Convention européenne et de faire appel à la Cour internationale des droits de l'homme pour qu'elle puisse se prononcer sur le jugement du tribunal français. La France a été reconnue fautive par la Cour pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale, comme la Grande-Bretagne l'avait été avant elle dans un dossier similaire. Après le verdict, la Cour a rappelé que si l'on privilégie le consentement du mariage sur celui des relations sexuelles, il en revient à enlever au viol conjugal son caractère répréhensible. En France, la justice pénale a intégré depuis 1990 le droit de refuser des relations sexuelles au sein d'un couple marié, ainsi que de pouvoir faire valoir la notion de viol si le ou la partenaire n'a pas consenti au rapport sexuel. Pourtant, la justice civile continue de s'appuyer sur l'article 242 du Code civil qui sanctionne un partenaire abstinent. Et oui, des articles comme ça existent toujours en 2025. La justification de l'article est encore plus culottée. L'abstinence d'un ou d'une partenaire pourrait être une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent la vie commune intolérable. Ce qui est pourtant intolérable, ce sont les chiffres de violences sexistes et sexuelles en France. Pour rappel, un viol sur deux est commis par un conjoint. Cette décision de la Cour de justice sera, on l'espère, une opportunité pour les autorités françaises de réformer leur justice qui en a grandement besoin et de peut-être remettre enfin en question ce fameux article 242 du Code civil.
Merci à Lilia pour toutes ces informations. Le programme d'éducation à la vie affective et sexuelle qui doit entrer en vigueur à partir de la rentrée prochaine sera présenté mercredi prochain au Conseil supérieur de l'éducation. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a défendu le programme jeudi. Il prévoit 3 séances annuelles dans l'ensemble des écoles, collèges et lycées, publics comme privés, comme l'impose théoriquement la loi depuis 2001. Mais ces séances sont dans les faits rarement réalisées. C'est un enseignement absolument indispensable, déclare-t-elle sur France Inter. Cette dernière version, qui n'est pas définitive, irrite les associations de parents les plus conservatrices. Le syndicat de la famille, qui n'est pas contre l'existence d'un programme, dénonce une approche idéologique, négative, hygiéniste, détaillée et subjective, ou encore un bourrage de crâne pro-gender et transactiviste. un mois après le passage du cyclone Chido, la vie reprend difficilement son cours à Mayotte. Certains habitants sont toujours privés d'électricité et l'eau courante peut parfois se faire attendre. Parfois l'eau coule un peu tous les jours, parfois on n'a rien pendant 3 jours, déplore une habitante. Par ailleurs, alors que la rentrée scolaire est prévue ce lundi, la tension monte. Certains habitants sont exaspérés de l'occupation des établissements scolaires par les plus précaires. Les habitants se disent prêts à sortir eux-mêmes de force des réfugiés si rien n'est fait. Bruno Dezille, secrétaire général du syndicat d'enseignants éducation, craint une hausse des violences. Une tempête nommée Eowyn va balayer les îles britanniques de la nuit de jeudi à vendredi, apportant des vents violents. Des rafales jusqu'à 150 km/h sont attendues en Irlande, puis sur le nord de l'Angleterre et de l'Écosse. La France serait plus épargnée. D'après les prévisionnistes, la France n'est pas concernée par les vents violents. La tempête arrosera les régions du nord-ouest de la France dès ce vendredi, avec des rafales pouvant atteindre 80 à 90 km/h le long des côtes. Cette tempête est qualifiée de bombe météorologique. Cela signifie que c'est une dépression qui a vu sa pression diminuer d'au moins 24 hectopascales en 24 heures. 3 meurtres en 3 semaines en ce début d'année à Rennes, c'est autant que durant l'année 2024 et rien ne semble annoncer la fin de cet emballement. Ces scènes seraient liées au narcotrafic. Malgré l'inquiétude des autorités, les habitants ne se disent même plus étonnés. Cette banalisation de la violence atteint même les pompiers. On ne s'étonne même plus que l'on nous appelle pour un homme en arrêt cardiaque après une agression par arme blanche ou arme à feu, reconnaît le secouriste. La mairie continue de réclamer des renforts de police. Selon les syndicats, il manquerait 100 de policiers à Rennes. Le trambus, vous connaissez, c'est le nouveau moyen de locomotion sur lequel Rennes Métropole mise pour augmenter son offre de transport en commun. Lundi dernier se tenait au centre René-Prévert la présentation d'un bout de la ligne T2. Il y avait du monde. Les riverains et riveraines étaient invités à découvrir le tronçon très fréquenté allant de la route de Lorient au Mail François Mitterrand. Cyriane s'y est rendue pour tout savoir sur la transformation de ce lieu d'entrée principale de la ville.
En pleine discussion avec des habitants et habitantes du quartier, venus en nombre ce soir, Valérie Faucheux, élue écologiste, adjointe aux mobilités et aux déplacements à la ville de Rennes, m'explique le projet présenté en revenant aux bases.
Alors, un trambus, c'est un transport à haute qualité de service qui permet d'accéder à la ville à partir d'un parking relais de manière fiable, puisqu'il y aura une fréquence assurée et surtout un bus qui est sur la majeure partie de son trajet sur une voie réservée, avec des feux qui lui donneront aussi la priorité.
Avant la réunion publique d'aujourd'hui, d'autres concertations citoyennes ont eu lieu. L'occasion pour l'élu d'échanger avec les riverains et riveraines.
Les premières réunions de concertation, elles étaient sur le projet trambus de manière globale, voir si ce que l'on projetait était compris, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient à revoir. C'était aussi sur les grandes lignes, d'aller de Vezin-le-Coquet à Cesson-Sévigné en passant par tel secteur, ça ne créait pas de problématique. Voilà, donc on était vraiment sur le projet en global. Et là, cette fois-ci, on est sur la concertation plus fine avec les riverains concernés par la transformation des espaces publics et puis l'arrivée de ce trambus.
Une des promesses de ce nouveau mode de transport, le remplacement de la ligne de bus 11 régulière. Coincé dans les bouchons. De quoi réjouir Yannick travaillant en route de Lorient.
Là actuellement, pour venir travailler, j'ai 40 minutes de trajet et il faut tout le temps attendre un bus à République. Du coup, j'attends tout le temps le 11. Là, avec l'arrivée du trambus, ça va être beaucoup plus facile et je vais pouvoir réduire mon temps de trajet.
Plan disposé sur les tables, l'élu me détaille les changements sur le tronçon concerné par l'arrivée du trambus.
On va réaménager devant le Roison Park. On va basculer la circulation automobile dans les deux sens d'un côté et on va mettre le trambus de l'autre côté. Et on projette de végétaliser aussi. Et on va faire aussi une piste cyclable le long du Roison Park. Donc là, ça va être un peu plus impactant. On a une difficulté quand même sur cette portion-là, c'est que la section de la rue de Lorient, qui est après le carrefour rue de Lorient Marbeuf, est très contraint. Et celui qui va jusqu'au carrefour avec Louis Guillou pour aller vers le Mail hein, est très contrainte. On ne peut pas faire une voie pour les bus et une voie double sens pour les voitures. Donc on est obligé, sur cette portion-là, de mixer. Donc de fait, les automobilistes qui, eux, viendront de l'extérieur devront passer par Marbeuf, n'auront plus le droit d'accéder à cette portion de la rue de Lorient. Par contre, il faut maintenir l'usage pour les habitants qui sont dans les rues adjacentes, la rue Kerviller notamment. Et eux, ils vont avoir des boucles de circulation. Donc il y a des impacts aussi pour eux.
Début des travaux, fin de cette année, pour une mise en service espérée en 2027.
Merci Cyriane. L'univers de Monde Réel vous propose sa première soirée de projection. Ce sera un fabuleux voyage immersif à travers des clips musicaux aux côtés d'artistes et de réalisatrices et réalisateurs. Une soirée conviviale, gratuite et ouverte à tous et à toutes pour découvrir les récits qui façonnent notre monde. Cela se passera le 26 février prochain au 23 rue de la Parcheminerie à Rennes.
Merci Angeline, on a beaucoup d'invités autour de la table ce soir, c'est super.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
En face de moi, je fais le tour de gauche à droite. Jade Davin. Oui, j'ai bien écrit. Oh, je me suis bien relue. Jade Davin, responsable marketing chez Didier Fleu, un soupule rayé et blazer.
Marie-Noëlle Coqueton, co-responsable du Master français langue étrangère à l'Université catholique de l'Ouest à Angers et autrice d'ouvrages en FLE, publié dans la collection Monde en VF de chez Didier Fleu, des petits oiseaux en guise de boule d'oreille. Et puis, je finis par Gaëlle Zanol, veste noire, très working girl aussi, enseignante Fleu au CIREF. Bonsoir à toutes les trois.
Bonsoir.
Je me tourne vers vous pour commencer. Gaëlle, le CIREF, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le CIREF, c'est le Centre international rennais d'études de français pour étudiants étrangers. Donc, qui est installé à Rennes 2 et c'est un centre qui a fêté ses 60 ans l'année dernière et qui dispense des cours de français langue étrangère à des étudiants de tous niveaux, de débutants complets à quasi bilingues, même du français langue seconde, et qui propose des cours toute l'année, même au mois d'août. Donc,
super. Voilà. Et en ce moment, donc, le CIREF organise le Liraton qui a lieu en ce moment même, alors que nous parlons. Qu'est-ce que c'est le Liraton ?
Alors, le Liraton, c'est un événement, on peut dire, qu'on a créé avec, et imaginé entièrement avec ma collègue Amandine Chevalier, qui en ce moment est en train de gérer justement les lectures. Là, il est 18h12, donc on a déjà 18h12 de... 6h12 de lecture
c'est
derrière nous.
C'est déjà pas mal.
Qui ont été quasiment ininterrompus. Et on en a encore, donc, 5h45
ouais,
qui nous attendent.
On est à peu près à mi-chemin.
On est à mi-chemin. Et ce lira-t-on, donc, l'objectif, c'était de lire 12 heures non-stop dans le plus de langues possibles, et si possible, des langues un peu rares aussi. Mm-hmm. Et évidemment, le français, et le français pour des étudiants étrangers, donc avec des lectures un peu plus faciles à comprendre.
On a eu quoi comme langue jusqu'à présent ?
Français, espagnol, portugais, persan, kumik, qu'est-ce qu'on est comme mixtec du Mexique, voilà pour les
c'est
noms.
Waouh, ok, oui, intéressant. Et donc bah là, si des gens veulent s'y rendre, c'est maintenant, ils
c'est encore
y aller.
Possible à l'espace des langues, donc au sous-sol
sur
du bâtiment
sur le campus Villejean, voilà, sur le campus de l'Université Rennes 2.
Et c'est possible d'écouter toutes les lectures puisqu'elles sont retransmises en direct sur le monde virtuel Rennes 2D. Il y a un lien que vous avez partagé, je crois, ou en
oui,
tout cas
sur le site de CILAB,
ouais. Ouais, qui a été partagé, mais
voilà, ben merci beaucoup.
Merci
je crois
beaucoup.
Que vous allez vite y retourner là.
J'y retourne. Et je laisse Marie-Noëlle Coqueton, notre autrice de la journée.
Et oui, parce que nous sommes aussi en présence d'une autrice et d'une responsable marketing de chez Didier Fleu, parce qu'on dit Fleu,
oui,
j'ai appris
tout
ça.
Tout à fait.
Qu'est-ce que c'est Didier Fleu ?
Alors Didier Fleu, en fait, est une marque des éditions Attier. Donc on est un éditeur spécialisé dans le monde du Fleu. On crée des méthodes spécialisées pour accompagner les professeurs de Fleu dans leur pratique d'enseignement.
Français, langue étrangère.
Voilà, en français, langue étrangère. Et donc pour différents publics d'apprenants, les enfants, adolescents, adultes. Et on propose également des ouvrages de préparation d'ELF pour ceux qui se préparent à cet examen pour avoir un bon niveau en français, des ouvrages complémentaires et du coup dans les ouvrages complémentaires on a notamment les lectures de la collection Monde en VF.
Donc parlons-en de cette collection, qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
Alors la collection Monde en VF, ce sont des romans qui sont destinés à la fois aux adolescents mais également aux adultes. L'idée principale, c'est de donner le plaisir de la lecture, donc le plaisir de lire en français dès le niveau A1, puisque c'est les cadres de niveau de français débutant, et puis de proposer voilà, des récits inédits de tous les genres, ça peut être des polars, du théâtre, des nouvelles. Ce sont des romans pour le niveau A1 qui sont des romans illustrés pour faciliter l'accès à la lecture à tous. Et il y a aussi une grande ouverture à l'interculturel francophone avec des auteurs de différentes origines, Belgique, Cameroun, Congo. Actuellement, dans les auteurs qui diffusent, on a Nicolas Ancion également, qui est belge et qui lit des extraits de ses romans de la collection.
Et c'est une collection récente ?
Alors, c'est une collection qui a démarré en 2012.
Ok.
Donc voilà, qui comprend actuellement 32 romans. Et voilà, et on continue régulièrement à sortir des nouveautés. Prochainement, Marie-Noëlle en parlera. Elle aura une de ses nouveautés. Et puis, qui est Voyage immersif avec Olympe de Gouges. C'est toujours autour d'un personnage clé de l'histoire. Et puis, plus tard dans l'année, on va avoir un roman autour des frères Montgolfier.
Donc, comme vous le dites, chaque histoire est autour d'un personnage. Comment sont choisis ces personnages? Est-ce qu'ils sont choisis par les auteurs, autrices? Je ne sais pas si vous voulez répondre.
Alors, en tant qu'autrice, du coup, je vais répondre à cette question. Les personnages sont des personnalités francophones. Donc, l'idée, c'est aussi, bien sûr, d'amener la culture sur plateau. Et donc, voilà, on choisit avec l'équipe éditoriale. On choisit les personnalités qu'on a envie de présenter. Après, moi, je me souviens que pour mon premier roman, on m'avait dit, on aimerait bien un homme, plutôt une personnalité homme. Et donc, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait déjà et j'ai fini par dire, je prendrais bien Antoine de Saint-Exupéry. Voilà, et puis, à l'époque, j'avais aussi proposé Joséphine Baker.
Vous êtes rattrapée, vous avez pris une femme, du coup, après.
Yes, bien sûr, évidemment. Et Joséphine Baker, à l'époque, pourquoi pas, c'était pas forcément, c'était pas celle qu'on avait envie tout de suite de lire. Et puis, Joséphine est entrée au Panthéon. Là, bien le boom, bien vu. Et donc, on a sorti une petite pièce de théâtre sur Joséphine Baker au Panthéon.
Oui, parce que vous avez un troisième livre dans la collection qui est moins centré autour d'un personnage et plus autour du théâtre, si
tout
j'ai
à fait
bien compris.
Exactement, bravo.
Qui semble être votre dada.
C'est ça, c'est mon dada. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, ou presque. Moi, je suis enseignante de français langue étrangère, donc j'enseigne le français aux étudiants étrangers à Angers. Et je donne des cours d'expression théâtrale pour apprendre la langue française.
Qu'est-ce que ça apporte, le théâtre, pour apprendre une langue?
Ça permet de ne pas être assis toute la journée. Et ça, c'est bien quand on est étudiant, parce qu'on passe des heures à être assis et on en a marre. Et donc là, ça permet de faire vivre la langue. Et une langue, c'est vivant. Donc j'enlève toutes les chaises, toutes les tables quand j'ai pas d'auditorium. Et puis dans la classe, on va faire des mouvements, on va faire de la ponctuation en mouvement. On va prendre des rôles. Prendre un rôle, c'est aussi plus facile quand on est étudiant étranger et qu'on doit parler une langue. Ça permet de se cacher derrière le rôle. Donc le théâtre, ça invite à ça. Donc c'est vrai que là, on a sorti une pièce de théâtre, un été plein de surprises, qui n'est pas, comme tu le disais, autour d'une personnalité francophone.
On fait un écart dans la collection. Et je ne sais pas si vous avez écrit des romans plus classiques, j'ai pas l'info, mais je me demandais comment on écrit pour un lectorat dont le français n'est pas la langue maternelle.
Alors, de mon point de vue, moi, je suis d'abord prof de FLE. Donc en fait, c'est vachement facile d'écrire pour le français langue étrangère, puisque moi j'écris aussi des méthodes, donc je suis habituée à avoir des apprenants de niveau A1 jusqu'à C1, donc je suis habituée à leur parler avec douceur, dans le sens on utilise les mots, on choisit des mots en fonction du niveau, on choisit la grammaire en fonction du niveau, donc ces contraintes qui sont des contraintes de niveau de langue, elles sont facilement applicables de mon point de vue, parce que moi je suis d'abord enseignante de FLE. Je pense que c'est plus difficile par exemple pour Nicolas, qui au départ n'est pas enseignant de FLE.
Un autre auteur.
Un autre auteur de la collection.
Tout à fait.
Lui, il est auteur, donc c'est beaucoup plus facile pour lui de rentrer dans l'imaginaire de l'écriture. Moi, c'est peut-être plus compliqué. Et lui, c'est beaucoup plus facile. Par contre, il a peut-être davantage de difficultés, ou du moins, il en a eu au départ, pour cette collection, de rentrer dans justement ces spécificités qui sont des spécificités liées à la didactique des langues, quoi.
Pourquoi c'est important pour vous? Vous avez peut-être chacune une réponse différente à apporter, mais pourquoi c'est important pour vous de promouvoir cette langue française auprès d'un public étranger ou pas?
La langue française, déjà, elle est à l'heure d'aujourd'hui promue dans le monde. C'est quand même la cinquième langue parlée dans le monde. C'est la deuxième langue apprise dans le monde. Donc j'ai envie de dire, la promotion, elle est déjà automatique. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de le faire. Et après, on peut se référer à les derniers événements qui ont eu lieu. Par exemple, la création de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Là, on peut dire qu'il y a une volonté gouvernementale de promouvoir la langue. Et puis, je ne sais pas, pour communiquer, c'est quand même vachement bien de pouvoir justement enseigner cette langue et de faire en sorte que tout le monde puisse se comprendre un peu plus facilement sans tout le temps passer par la langue numéro 1 que je ne citerai pas.
Jade, est-ce que vous savez dans quel pays sont le plus vendus les livres de la collection?
Alors la collection Monde en VF spécifiquement, elle est quand même principalement vendue en France.
D'accord.
C'est vrai qu'il y a un fort public, on ne s'y attendait pas, mais il y a aussi un fort public de lecture facile qui sont attendus par les médiathèques et autres. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un gros gros attrait de la collection pour des personnes qui veulent retourner à la lecture à l'âge adulte et qui veulent y retourner en douceur et qui, par l'intermédiaire de cette collection, y retournent également. Donc c'est vrai que du coup, maintenant, on a deux publics. Le public français, langue étrangère, à qui sont principalement destinées les lectures, puisque comme disait Marie-Noël, les lectures sont adaptées à leur niveau d'apprentissage en français, mais aussi maintenant permettre aux gens, et moi-même, j'ai lu quelques-uns de ces romans et j'ai été captivée par l'histoire, donc c'était assez... Je me suis dit, oui, il y a un fort attrait, et c'est pas juste pour apprendre la langue, il y a aussi un intérêt
culturel.
Voilà.
Et vous proposez aussi sur votre site des versions audio et plein de ressources pédagogiques. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? En quoi ça consiste? Voilà. Ça vient en appui des...
Oui, en
des...
complément des ouvrages, on peut avoir accès à tous les chapitres sont enregistrés en audio. Donc on peut flasher les pages du livre pour écouter l'audio et donc écouter la version lue du roman. Et il y a également un site qui s'appelle monenvf.fr sur lequel il y a ces mêmes audios, mais il y a également des fiches pédagogiques, des ressources pour aider les enseignants, parce que c'est quand même la première cible à l'origine, c'est d'aider les enseignants à animer leur classe avec des lectures et donc leur donner des outils, des ateliers d'écriture, des fiches pédagogiques pour faire des exercices en classe avec leurs élèves autour des romans. Et notamment, j'en ai vu quelques-uns avec Un été plein de surprises.
Pour compléter, voilà, pour compléter ce que dit Jade, moi c'est vrai que j'ai aussi conçu les fiches pédagogiques pour la pièce de théâtre, parce que c'est pas parce qu'on est enseignant de FLE qu'on sait forcément faire du théâtre en classe. Donc là, c'était l'occasion de créer une fiche pédagogique qui soit facile, avec des activités qui sont faciles à mettre en œuvre en classe. Donc on guide un peu l'enseignant pour qu'il puisse facilement mettre des activités théâtrales en classe.
Et ces ressources, ces fiches pédagogiques, elles sont accessibles sur abonnement ?
Non, c'est gratuit, c'est absolument gratuit sur le site monenvf.fr, donc voilà.
Super. Livre à venir dans la collection, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez annoncer ?
Eh bien, on peut annoncer la publication très prochaine, de la pièce de théâtre de niveau A1, et là c'était donc la nouvelle contrainte, Voyage immersif avec Olympe de Gouges. Donc, il est vrai, j'ai choisi Olympe de Gouges. Donc, ça raconte un petit peu toute la vie d'Olympe à travers le regard des trois lycéens qui sont en train de taffer pour leur projet de première, puisqu'en première, ça fait partie de... En fait, c'est dans le programme de première pour le bac de français. Donc, ils sont en train de taffer sur Olympe de Gouges. Et tous les trois ont un caractère un peu... bien différent.
Et là, on parle de A1, mais il y a des livres pour tous les niveaux, pour tous les âges. Ouais.
Oui, principalement. Alors maintenant, on se focalise beaucoup plus sur les niveaux A1, tous ceux qui sont autour des personnages et qui sont illustrés pour rendre la lecture plus accessible à tous. C'est du niveau A1, mais effectivement, on a aussi des romans comme ceux de Nicolas qui vont être plus du niveau A2, moins illustrés, mais qui permettent, quand on a atteint un certain niveau en français, on a envie d'aller plus vite. Et on va plus vite, on veut lire plus, donc on a besoin de plus de matière. Donc on a... Et ces romans-là sont par contre plus tournés sur le monde francophone, des environnements et des publics différents. Ça peut se passer au Sénégal, dans d'autres pays.
Super, ben merci beaucoup à vous deux. Je rajoute juste un petit mot parce qu'on a un jeu concours en ce moment qui a lieu.
Tout à fait.
SILAB vous propose de gagner une licence d'une validité de 11 mois pour un des livres numériques, donc dans cette collection, Monde en VF. Y en a une trentaine, c'est ça?
Voilà, il y a à peu près une trentaine de romans, donc c'est au choix.
Voilà, de chez Didier Fleu. Pour participer, il y a un mot de passe que j'ai choisi parmi les personnages de ces livres. Bon, c'est un homme, désolé. Mais mince. C'est avec lui que je suis rentrée dans la lecture. Donc voilà, le mot de passe, c'est Jules Verne. Un des nombreux personnages. Pour jouer, rendez-vous sur c-lab.fr. Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
6h avant minuit.
Tristan, tu es de retour pour ta chronique Metal Stase. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour aujourd'hui ?
Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans l'épisode 4 de Metal Stase. Ce soir, nous plongeons au cœur du monde merveilleux du death metal mélodique.
Oui !
Nous sommes au début des années 90. Les pères fondateurs américains du death metal tels que Death et Morbid Angel sont devenus suffisamment populaires pour que le genre s'exporte. Et s'il y a bien un pays dans lequel il fait fureur, c'est la Suède. En effet, le royaume abrite très rapidement des groupes majeurs à l'image d'Entombed. « Vers le milieu de la décennie, le death metal peine à se renouveler et souffre de la concurrence du black metal qui a su promptement se diversifier. Tandis que les Américains tournent en rond, nos amis suédois vont proposer quelque chose de nouveau. Vers le, même si encore bien ancré dans le death dit old school, Edge of Sanity innove. Sur ce morceau intitulé Twilight, les guitares distordues, le chant saturé et les rythmiques lourdes caractéristiques font de la place à des passages plus accrocheurs et mélodieux, à d'autres carrément atmosphériques, et le groupe s'essaie même au chant clair ainsi qu'au clavier. Ces expérimentations se retrouvent d'ailleurs dans une bonne partie de l'album dont est tiré Twilight, la pierre angulaire Purgatory Afterglow, sorti en 1994. Mais au désespoir de ce groupe sous-estimé, l'avènement de ce qui deviendra le death metal mélodique ne surviendra qu'un an plus tard. En l'an de grâce 1995, dans la ville sainte de Göteborg, les trois rois mages ont apporté leur présent au dieu métal. Pour In Flames, ce sera The Jester Race. Pour Dark Tranquility, ce sera The Gallery. Et enfin, pour At The Gates, Slaughter of the Soul. Cette sainte trinité fait exploser le death mélodique à la face du monde. Le genre, qui reste ardu tout en étant plus accessible, constitue pour beaucoup de personnes, dont votre serviteur, une excellente porte d'entrée vers le métal extrême. Place ensuite, fin 90, début 2000, à l'âge d'or du style qui coïncide avec l'arrivée du voisin finlandais dans la partie. Si les touches folk figurent en bonne place dans le mélodeath du pays des mille lacs, comme chez Inciferum ou Insomnium, la tendance est davantage à la technicité et à l'usage massif des claviers. Cette vision finlandaise du death mélodique, portée à bout de bras par le phénomène Children of Bodom. Leur musique mélange un grand nombre de styles de métal et embrasse des influences néoclassiques, le tout ponctué par les duels guitare-clavier virtuose d'Alexis Layo et Janne Wiermann. Le quintet a beau être révolutionnaire et marquer son époque, le grand bouleversement viendra une nouvelle fois de Suède avec Soilwork. Ces derniers font éclater les barrières et changeront durablement le visage du mélodeath avec leur approche plus pop, bien qu'encore tout à fait extrême. Une myriade de groupes, pas seulement de death mélodique d'ailleurs, copieront leur refrain signature. Cependant, le déclin du genre est amorcé par ce manque de diversité dont pâtissait le death metal originel et également par l'essoufflement de ses leaders, In Flames et Children of Bodom, en tête. Si certains groupes ont su garder le cap à l'image de Dark Tranquility, la scène mélodeath n'a jamais pu retrouver sa flamboyance. Elle est néanmoins toujours vivante, avec de nouvelles têtes et des pionniers toujours bien là. C'est le cas d'Arch Enemy, qui, bien qu'ayant commencé plus tard que la Sainte Trinité, est aujourd'hui le leader incontesté du death mélodique, porté par la chanteuse star Alissa Whiteglows. Nous nous quittons avec leur dernier titre en date, Blood Dynasty. Bonsoir et à la prochaine. There.
Merci Tristan, ça fait toujours plaisir. Mmh. À la prochaine. Un dernier petit message avant la fin de l'émission.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô? Allô?
Syllab, la radio sauvage.
Notre répondeur est encore une fois vide cette semaine. C'était pas... Vous avez rien à nous dire, je sais pas. Mais en tout cas, si vous avez un retour à nous faire sur la super chronique de Tristan ou sur un de nos reportages, sur ce qui a été dit pendant une interview, vous avez une idée de sujet, vous voulez juste nous dire que vous nous aimez, et ben, laissez-nous un message vocal. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35 et on diffusera votre message à la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Merci Eva pour la technique et puis à lundi.
La radio sauvage.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h, 19h sur Syllab, la radio sauvage.